Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, rabbi zidna ilma ya karim, rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. À la grâce d'Allah Azza wa Jalla, on a commencé le tafsir d'Al-Fatiha il y a quelques jours. Et on avait, bi'idhnillah, on a vu l'étendue du tafsir. Si on combine plusieurs kutub, plusieurs livres, on a vu la richesse de chaque huruf et de chaque mot qui compose Al-Fatiha. Et il en est de même de l'intégralité du Qur'an. Subhanallah, on a vu l'importance du Alif Lam, l'article dans Al-Hamdu. On a vu le sens de Hamd qui est spécifique à Allah Azza wa Jalla et qui inclut At-Ta'zim wa Al-Hub, qui inclut la grandeur d'Allah, mais également l'amour sans limite pour Allah Rabbul Izza. Et on a vu également Alhamdulillahi, le fameux lam qui veut dire pour et qui est pour al-ikhtisas, que les louanges reviennent à Allah et uniquement à Allah Azza wa Jal. On a le tawhid dans l'article al bima'na jami' al-mahamid, et on a également le tawhid, l'unicité d'Allah, dans l'article li, pour Allah et uniquement, reviennent uniquement à Allah Azza wa Jal. Donc Al-Fatiha est un condensé de tawhid, d'unicité d'Allah, d'attestation de foi, de soumission à lui, de reconnaissance de la grandeur, de la puissance d'Allah Rabbul Izza, de sa clémence, de sa miséricorde et d'affirmation de notre rang de abid, de notre rang de d'adorateur qui nous qui se courbe, qui se tient debout, qui se tient en génuflexion, qui se prosterne devant Allah Azza wa Jal et qui le reconnaît comme Ilahul Haq Rabbul Alamin Maliki Yawmiddin, et qui atteste que oh Allah, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Il nous restait à compléter la deuxième partie du premier verset. On avait vu Alhamdulillahi, on doit voir Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange reviennent à Allah. La bonne traduction serait « Toutes les louanges reviennent exclusivement à Allah ». Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le maître des mondes, le seigneur des mondes. Alors, on avait vu un qualificatif pour Allah Azza wa Jal, c'est à travers le nom d'Allah, le nom d'Allah Rabbul Izzah, Allah, on avait vu que ça vient de Al-Ilah. Et Al-Ilah, on avait vu que c'était Al-Ma'luh, celui qui est adoré. Dans le mot « Ilah », il y a le sens de ibada, d'adoration. Là, on a un autre qualificatif pour Allah Azza wa Jal, c'est Alhamdulillahi Rabb, Rabbil Alamin. Rabb, ça veut dire, alors si on regarde la traduction, c'est Seigneur, c'est Maître, c'est celui qui accorde, il y a plein de traductions, et bien sûr, aucun terme ne serait suffisant réellement pour traduire la puissance de ces termes. Dans le terme Rabb, Ibn Uthaymin, rahimahullah, explique Huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Le terme Rabb, alors déjà, le terme Rabb, lorsqu'il est utilisé, alors on ne va pas rentrer dans trop de détails de grammaire, lorsqu'il est isolé, voilà, le terme Rabb, lorsqu'il est isolé, c'est-à-dire, c'est compliqué de dire il est isolé, c'est-à-dire qu'il n'est pas annexé à notre mot. En arabe, il y a un principe qui s'appelle al-idafa, l'annexion, c'est quand deux mots sont associés pour un sens précis. Le mot Rabb qualifie Allah Azza wa Jal, d'accord ? Et on ne peut pas l'employer pour autre qu'Allah, Azza wa Jal, bien sûr, tout comme Ilah. Mais lorsque le mot Rabb est annexé, il peut être utilisé pour des créatures. Par exemple, en arabe, il y a une expression, c'est Rabbul Bayt, Rabbul Dar, c'est le maître de la maison, hein, celui qui est le propriétaire, celui qui gère, celui qui accueille, celui qui honore les invités. Mais isolé, sans annexion, Rabb, c'est pour Allah Azza wa Jal. Et dans le mot Rabb, alors avant de voir la définition d'Ibn Uthaymin, on a, si vous avez quelques bases de langue arabe, dans le mot Rabb, on peut retrouver un mot que vous connaissez, c'est le mot tarbiya. Tarbiya, c'est l'éducation. Quand on parle de l'éducation des enfants, tarbiyatul awlad, tarbiyatul ajyal, l'éducation des enfants. Et dans le mot Rabb, on a ce côté où on voit, on entrevoit, ne serait-ce le sens, que c'est Allah qui nous donne, qui nous accorde, qui nous donne vie, bien sûr, qui nous permet d'avancer dans la vie, qui nous protège d'étape en étape et qui nous permet de franchir les étapes jusqu'à, mashallah, une certaine maturité, et c'est auprès de lui que nous retournons. Donc, dans cette dernière partie, auprès de lui que nous retournons, bien sûr, ça, on ne retrouve pas dans le sens de l'éducation des parents vers leurs enfants. Mais il y a cette notion d'amour pour celui qui a, cette notion d'amour pour celui qui contrôle ou alors qui prend soin, voilà, pour celui qui prend soin de quelqu'un qu'il aime. Comme la maman ou le père, yurabbi, auturabbi, waladahu ou waladaha, qui s'occupe de son enfant, mashallah, pour tous ceux qui sont parents et ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qu'Allah Azza wa Jalla vous en accorde, et les célibataires, qu'Allah vous accorde, zawjatan saliha, et des enfants, dhurriyatan tayyiba, un papa et une maman par excellence, subhanallah, vous, l'intégralité de son temps pour s'occuper de son enfant, pour veiller à ce qu'il ne manque de rien, et l'assister étape par étape, le guider étape par étape, le protéger contre les éléments extérieurs qui peuvent lui être préjudiciables, mais également le guider pour qu'il ne commette pas d'erreur et lui donner la bonne éducation pour qu'il ne prenne pas le mauvais chemin, même par la suite. Vous voyez cette idée que tout le monde comprend de la relation entre des parents et leurs enfants, ben, ça nous donne un aperçu quand on dit Allah est notre Rabb, c'est celui qui bien sûr nous a créé, nous a donné la vie, mais celui qui veille sur nous. Il y a ce côté affectueux et il y a cette notion d'amour dans le terme Rabb, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et c'est là que nous revenons vers la définition d'Ibn Uthaymeen, huwa man ijtama'a fihi thalathat awsaf. Dans le mot Rabb, on a trois qualificatifs. On a al-khalq, al-mulk, wat-tadbir. Al-khalq, c'est la création. Allah est le Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, c'est lui qui a créé. Il y a le sifa al-mulk. Allah a créé, et al-mulk, c'est celui qui possède. Et toute la création fait partie du royaume d'Allah. Allah les a tous créés et ils appartiennent tous, nous appartenons tous à Allah Azza wa Jal. Et il y a at-tadbir. Et at-tadbir, c'est celui qui contrôle, qui gère, qui veille à ce que tout se passe bien pour cette créature et qui prédestine les choses et qui veille à son équilibre, à tadbir. فَهُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah est ainsi le Seigneur de toute chose, le maître de toute chose, الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ, celui qui a le contrôle total sur toutes les créatures et chaque situation de la vie de chacune de ces créatures. Donc là, nous voyons la puissance du mot Rabb. Il y a en même temps ce côté amour et affectueux, celui qui veille et qui, comme on l'a dit, qui fait, subhanallah, celui qui a créé, celui qui est le maître de ses créatures et celui qui veille au bien-être. Voilà, qui veille au bien-être de chacune de ses créatures. Donc ça, c'est le mot Rabb. Alhamdulillah Rabbil al-alamin. يقول العلماء رحمهم الله العالمين أي كل ما سوى الله فهو من العالم. Tout ce qui existe, tout ce qui est en dehors d'Allah entre dans la définition de al-alamin, le Seigneur des mondes. Et Allama As-Sa'di rahimahullah, de son tafsir Taysir al-Karim Rahman, il parle de cette éducation entre guillemets, c'est pas la bonne traduction. J'ai regardé dans le tafsir As-Sa'di en français, le traducteur utilise également l'éducation d'Allah pour ses créatures, mais à mon humble avis, ce n'est peut-être pas le terme le plus adapté. C'est le fait qu'Allah veille au bien-être de ses créatures. Il dit qu'il y a wal murabbi jami' al-alamin, il dit qu'ala naw'ain, il dit que wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Le fait qu'Allah éduque sa création, ben là-dedans il y a deux degrés. Mais le fait qu'Allah veille au bien-être et leur accorde ce qu'il faut, ce serait peut-être un peu plus correct. Il y a deux niveaux, al-am ou al-khas. Il y a, on va dire, ce qui est général et ce qui est spécifique. Ce qui est général, c'est-à-dire pour l'ensemble des créatures, le fait qu'Allah les ait créées, le fait qu'Allah leur accorde leur subsistance, le fait qu'Allah Rabbul Izza wa hidayatuhum lima fihi masalihu, le fait qu'Allah guide chacune de ses créatures pour qu'ils puissent survivre et pour qu'ils puissent avancer sans qu'il ne leur arrive quoi que ce soit de mauvais. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, ce qui leur permet de vivre. Donc ça, c'est, on va dire, une bienveillance d'Allah de façon générale pour l'ensemble de ses créatures. Et puis il y a cette bienveillance d'Allah, ce regard d'Allah qui est khas, qui est spécifique. Tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihim bil iman. Allah Rabbul Izzah les éduque et leur accorde la foi. Allah leur accorde son acceptation. Allah Azza wa Jal guide leurs pas vers le droit chemin et les protège du mauvais chemin. Donc ça c'est Rabbil Alamin. Il y a donc, je répète, le fait qu'Allah Azza wa Jal, on va dire, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'occupe de l'ensemble de sa création et gère sa création. Il y a une gestion, voilà, une gestion qui est âme, qui est générale, et puis il y a une gestion qui est spécifique, c'est pour Ahlul Tawhid, ceux qui ont La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hada. Et on a vu dans l'étude du nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq, que là aussi la subsistance, parce que dans le terme Rabb, on retrouve un peu la notion de risque, il y a ce qu'on appelle Ar-Rizq al-Am ou Ar-Rizq al-Khas, c'est qu'Allah accorde de subsistance générale à l'ensemble des créatures, c'est réellement ce qui leur permet de se nourrir, hein, pour rester en vie. Et Ar-Rizq al-Khas, la subsistance qui est, elle, plus subtile et plus spirituelle, c'est au-delà de la nourriture et le fait qu'ils aient à boire et ainsi de suite, c'est la guider et à peu près dans le sens de ce que nous venons de lire du tafsir de As-Sa'di, rahimahullah. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, ça englobe donc le monde des anges, le monde des humains, le monde des djinns, le monde des animaux, tout ce qui existe sur Terre, que ce soit des créatures qui sont visibles ou invisibles, que ce soit des créatures qui sont gigantesques ou des créatures qui sont à l'échelle microscopique, d'accord ? Même les virus, les bactéries, nous savons que ce sont des êtres vivants, d'accord ? Et en ce moment, il y a certains virus qui nous font voir de toutes les couleurs, ben, ça aussi, ça fait partie de la création d'Allah, Azza wa Jal. Et Allah peut utiliser chacune de ces créatures de la façon qu'il le souhaite. On avait un exemple dans Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil, quand Allah envoyait les ababil, c'était ces moineaux, et on retrouve encore ces oiseaux à Mecca, c'est une race d'oiseaux qui existe toujours, c'est des moineaux qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé pour anéantir l'armée de Abraha, une armée d'éléphants, des oiseaux, et chaque oiseau portait dans ses serres une pierre sur laquelle était écrite le nom de son destinataire. Et la pierre tombée donc du ciel et transpercée à Adou Wallah, l'ennemi d'Allah Azza wa Jal. Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, utilise une petite créature pour anéantir une armée gigantesque, l'armée d'Abraha, qui était montée sur les animaux les plus gros mammifères, sur les éléphants. Hada. On a également l'exemple de Ya'juj wa Ma'juj qui viendront à la fin des temps, Gog et Magog, et ils seront anéantis par, on parle de virus ou de bactéries ou d'insectes, des insectes qui vont les piquer au niveau du cou et ils vont mourir, ils vont tous mourir, hein. Une population qui est supérieure à la population d'êtres humains, ils vont tous mourir, ils sont anéantis par des créatures qui sont à l'échelle microscopique, alors tout complètement, vraiment, vraiment minuscule. Rabbul Alamin, celui qui a créé chacune de ces créatures, qui a le contrôle sur eux et qui peut décider comment il gère chacune de ces makhlouqas, de ces créatures. Ce que nous devons retenir, c'est que tout ce qui existe est la création d'Allah et appartient à Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, les mufassirin rahimahumullah rappellent que lorsque tu lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lorsque tu lis Rabbil Alamin dans ta salat, ce qui doit vraiment habiter ton cœur à cet instant, c'est ta'zimullah, ressentir la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal, et réaliser quelle chance tu as de te tenir debout devant le Seigneur des mondes, devant Allah Azza wa Jal, qui est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'ange Jibril, le Seigneur de l'ange Mikaïl, le Seigneur de Muhammad alayhi salatu wassalam, de l'ensemble des Anbiya. Moi, je me tiens debout devant lui et je dois être persuadé, mais on doit avoir une yaqin inébranlable, une conviction sur le fait que lorsque je me tiens debout devant mon Rabb Azza wa Jal et que je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal répond Hamidani Rabbi. Et quand je dis, et ainsi de suite, comme on avait vu le hadith en introduction d'Al-Fatiha, pour chaque formule d'Al-Fatiha, on a une réponse personnalisée de notre Seigneur Azza wa Jal, et c'est là que le croyant comprend l'importance de la prière et l'honneur qui lui est accordé de se tenir debout devant Allah et de pouvoir lire Al-Fatiha. Et Allah Azza wa Jal facilite la mémorisation d'Al-Fatiha. Je pense que l'ensemble, ou alors, subhanallah, la majorité, une grande majorité des musulmans dans le monde entier connaît Al-Fatiha par cœur, et c'est amplement suffisant pour la guider d'un croyant que de connaître Al-Fatiha, à condition de connaître son sens et de s'en inspirer, parce qu'il y a là le sens le plus profond de tawhid, de la soumission et de l'adoration d'Allah, Azza wa Jal, hadha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y avait deux petites questions, sans trop s'attarder, on va dire des questions annexes. Premièrement, lorsqu'on dit qu'Allah est le Seigneur des mondes, de toutes les créatures, les savants disent que n'oubliez pas que même les créatures, entre guillemets, du mal, les créatures qui font du mal à la création d'Allah ou aux croyants, font partie de la création d'Allah. L'ange, non, astaghfirullah, j'allais dire plutôt Iblis, d'accord ? Iblis, Shaytan, fait partie également des créatures d'Allah, et l'ensemble des shayatines ont été créés par Allah Azza wa Jal. D'où le verset dans Al-Falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. On demande protection auprès d'Allah contre les choses qu'il a créées, même ces créatures qui sont mauvaises. J'ai pas la bonne traduction de قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, mais c'est le sens du verset, contre le mal à peu près, on va dire contre le mal qu'il a créé. Ça fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal. Ad-Dajjal, l'Antéchrist, est également une créature d'Allah. Gog et Magog, qui vont semer le chaos, je ne sais pas pourquoi on parle de ce soir, c'est la deuxième fois, ils font partie également de la création d'Allah, Azza wa Jal. C'est-à-dire que tout est moulk lillah. C'est-à-dire que dans le monde, il n'y a pas comme... Parfois, on peut, je sais pas, parfois ça travaille un peu notre inconscience, ce qu'on a pu voir de notre jeunesse comme film ou dessin animé ou ainsi de suite, où il y a toujours le pouvoir du bien et le pouvoir du mal, d'accord ? Comme si qu'il y a une lutte entre le bien et le mal. Comme si que le bien est toujours en lutte, c'est un combat sans arrêt, et ils doivent tenir pour avancer et pour faire avancer la vérité. Na'oud billah, ça ne se passe pas comme ça. Dans la réalité, Allah est le maître des mondes, et Shaitan n'a rien. Il n'a rien, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas, na'oud billah, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas un shaitan qui résiste à Allah, azza wa jal, abadan. Shaitan a demandé l'autorisation à Allah de pouvoir vivre sur cette terre, on va dire, jusqu'au qiyam. Et Allah lui a donné cette autorisation. Ensuite, il a fait la promesse qu'il va essayer de détourner le maximum de personnes du droit chemin. Et Allah lui permet de le faire, tout comme Allah guide les gens qu'il veut protéger, mais Shaitan a cette faculté à embellir les péchés et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, na'oud billah, d'opposition, il n'y a pas le mal qui lutte contre le bien aucunement. Allah est le maître, Allah est Rabbul Alamin, et même les créatures du mal font partie de la création d'Allah. Ce que je retiens par rapport à cette explication qui est un petit peu détaillée, c'est que le croyant ne doit en aucun cas avoir peur de tout ce qui est paranormal, les shayatines ou autre. Et quand tu lis A'udhu bi kalimatillahi tammati, on dit bien min sharri ma khalaq, on demande protection d'Allah contre toute chose mal, toute chose mauvaise qu'il a créée. D'accord ? Ça veut dire que réalise que tout est créature d'Allah. Tout ce qui existe, c'est la création d'Allah, et c'est Allah qui les a créés, qui a le pouvoir sur eux, c'est Allah qui les nourrit, c'est Allah qui les contrôle, c'est Allah qui gère ces créatures. Et donc, si tu veux être protégé de ces créatures, il n'y a pas d'autre moyen que de t'en remettre à celui qui les a créés, qui les contrôle, pour demander protection à Allah. D'où l'importance de ce dua, A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, et de toutes les autres adhkar. Et surtout, notre cœur doit être apaisé et doit être habité par cette confiance en Allah et cette conviction que si Allah est avec nous, aucune, mais vraiment aucune créature ne peut nous faire du tort. C'est lorsque le prophète avait dit à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sache que si وَعَلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal, pour te causer du tort, il ne te ferait rien de plus, ne te ferait rien d'autre que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Donc il ne faut surtout pas avoir peur d'une quelconque créature. Tout est création d'Allah, Azza wa Jal. Ça c'était un point à mon humble avis, qui était intéressant, important. Il y a un autre point qui est beaucoup moins intéressant, mais je vous le dis quand même, parce que je ne pense pas qu'on reviendra avant notre mort, hein, Wallahu a'lam, sur le tafsir d'Al-Fatiha, parce qu'il faut qu'on voit les autres sourates. Donc ça, c'était une occasion, et c'est un grand bonheur que de pouvoir le partager avec vous. Alhamdulillah, la dernière fois qu'on a fait tafsir d'Al-Fatiha, c'était dans la masjid de Saint-Clotilde, ça remontait à... je pense à 8 ans ou 9 ans. Donc, mashallah, c'est foursa, walhamdulillah. Et il y avait donc une question qui a été posée par un peu plus des contemporains, par rapport au terme, louange, alhamdulillah, tout le long, je reviens dans le Seigneur des mondes, al-alamin. Al-alamin, bien sûr, c'est le pluriel de alam, c'est un pluriel. Alors, certains se sont posé la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres mondes? De façon plus claire, est-ce qu'il y a une vie extraterrestre? Est-ce qu'Allah aurait créé d'autres peuples, d'autres ummas, dans d'autres planètes, d'autres, je sais pas, d'autres univers, d'autres voies lactées, d'autres systèmes solaires, et ainsi de suite? Est-ce que ce verset prouve qu'il y a d'autres créations? La réponse est « Wallahu ta'ala a'lam ». Allah seul le sait. Et cette réponse ne nous apportera rien de notre iman. Ce que nous devons chercher en priorité, c'est notre guidée à nous. La guidée de nos proches, la famille, de nos parents, de nos descendants et l'ensemble de la Oumma. Maintenant qu'il y ait des petites créatures, ou petites ou plus grandes, ou qu'il y ait des humains, Wallahu a'lam, qui habitent sur d'autres planètes, même si ça existe, ou si ça n'existe pas, ça ne change en rien mon devenir et mes obligations. Je veux dire qu'il faut rester concentré et ne pas s'éparpiller. Après, il y a une règle aussi à retenir. Alors, je donne le deuxième avis. Certains savants disent que oui, ce verset prouve qu'il y a d'autres univers. D'accord ? D'autres savants disent que non. Le terme « al-alamin », c'est au pluriel parce que chaque type de créature, ça s'appelle « alam », le monde des humains. Le monde des djinns, le monde des anges, le monde des animaux. Et dans les animaux, on a le monde des animaux terrestres, le monde des animaux marins, et ainsi de suite. Et des oiseaux. Chaque type de créature, c'est un alam, d'où le pluriel al-alamin. Je pense que c'est clair, les deux avis. D'accord ? Et puis, il y a une règle qu'il faut retenir, c'est que ce qui n'est pas précisé de le Coran, ce qui n'est pas mentionné de le Coran, ne veut pas forcément dire que la chose n'a jamais existé. Ça, c'est une règle à retenir. Je vous donne un exemple. Les dinosaures. Alors, ce qu'on est en train de faire là, une nuit un peu, on est en train de parler des dinosaures. Et il y en a qui pensent direct à Denver, le dinosaure, et Jurassic Park et tout. Laissez-moi vous ramener vers la réalité. Certains disent que non, c'est pas possible que ça existe, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Après, il faut être réaliste, il y a bien eu des ossements, des fossiles qui ont été découverts. Hein, d'accord ? Il faut pas oublier. Alors, on va pas rentrer dans trop de thèses. Bon, je n'ouvre pas cette parenthèse. Je veux dire que ce n'est pas parce que leur existence n'a pas été mentionnée dans le Coran que ça veut dire qu'ils n'ont pas existé. D'accord ? Combien d'animaux, combien d'animaux, de races d'animaux ont été cités dans le Coran ? Il n'y en a pas énormément. Al-fil, il y en a le hudhud, il y a an-naml, il y en a al-dhib, il y en a, hein, si, bon, ça a été, certains savants ont énuméré le nombre d'animaux, mais je vais donner un exemple, hein, la girafe. Il n'y a pas la girafe dans le Coran. D'accord ? Ne cherchez pas, il n'y a pas le sourate la girafe. Non, il n'y a pas, ne cherchez pas. D'accord ? Le léopard, d'accord ? Il n'y a pas. Ça ne veut pas dire que ces animaux n'existent pas. Ils ne sont pourtant pas cités dans le Coran. On comprend la règle ? Pourquoi je le dis ? Parce qu'il ne faut pas s'aventurer à donner des interprétations et de dire que non, si dans le Coran, c'est pas que ça n'existe pas. Parce que le jour où on découvre que ça existait, ça peut voilà, fragiliser un peu l'avis, l'opinion des gens sur ce qu'on a dit, d'accord, et ça peut être une fitna. Donc, il est mieux de s'occuper de ce qui nous a été révélé et d'aller vers l'essentiel plutôt que de trop papillonner dans les thèses, de trop philosopher et parfois de s'aventurer, d'accord. Pareil pour la Terre qui est plate ou qui est ronde et tout. Et voilà, le problème, c'est que si certains s'étaient avancés pour dire que la Terre est plate, bon, après, certains l'avaient fait, certains grands savants, mais c'était par rapport au tafsir d'un verset. Vous savez que le commentaire d'un verset est parfois subjectif. C'est un savant qui a un avis concernant un verset. Après, quand on découvre que la Terre n'est pas plate, elle est ronde, ça ne veut pas dire que le Coran a tort là. Ça veut dire que cette personne s'est trompée. Comme tout être humain, d'accord ? Je me suis trompé aujourd'hui, mea culpa. J'ai publié un post que j'ai effacé, mais en 3 minutes. Mais le post est parti, Wallah Musta'an, à la vitesse de l'éclair. Et je ne sais même plus comment rattraper les choses. Moi qui, mashallah, fin, bi'idhnillah wa fadlillah ta'ala wa karami, je n'arrête pas de dire qu'il faut bien vérifier les sources. J'ai reçu, mea culpa, i'tidhar, je vous le dis, j'espère que ceux qui vont l'entendre le propageront, j'ai reçu un post d'un savant. Un docteur, en plus, qui a un doctorat, qui l'écrit en arabe et tout, qui dit, qui rappelle que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aurait dit que si la nuit, le jeudi soir, jeudi soir, la nuit du vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir, comme maintenant, correspond à une nuit impaire, il y a de fortes chances que ce soit Laylatul Qadr. D'accord ? J'avais déjà entendu cet avis, et je l'ai traduit. Je me suis dit que c'est l'occasion, mashallah, de le partager, sachant que la personne qui l'a partagé, quelqu'un qui a la connaissance religieuse. Et des fois, on se fie sur un alim, on se dit que bah, lui, il ne va pas se tromper, et on traduit. Et double erreur, j'ai mal lu, au lieu de lire, il me semble, Ibn Hubayra, j'ai lu Abu Huraira. Bon, c'était peut-être la faim ou la fatigue, c'était 10 minutes avant la rupture du jeûne. Et le poste est parti, et puis j'ai eu un doute. J'ai relu, je dis, attendez, il y a quelque chose. Ça se saurait si c'était Abu Huraira, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on découvre maintenant si c'était, on a dit quand c'est l'avis, la citation d'un sahaba, ça s'appelle un mawquf. On a eu l'occasion d'en parler. Le mawquf n'est pas hujja. On ne fait pas amal, on ne met pas en pratique un mawquf. C'est l'opinion d'un sahaba. Et je me suis dit que mais, si Abu Huraira l'avait dit, mais, ça serait connu, c'est pas possible qu'on découvre ça le 6 mai à 18h à 17h45, c'est pas possible. Et puis en relisant, je me suis rendu compte que non, ça n'a rien à voir avec Abu Huraira, c'était peut-être que j'aime trois Abu Huraira, donc j'ai vu son nom et j'ai supprimé le poste. C'est resté 3 minutes ou 5 minutes et là hadith wala haraj, c'est sur WhatsApp, ça circule avec mon nom et j'ai alhamdoulilah deux collègues pour qui j'ai beaucoup d'estime qui m'ont fait un rappel et le rappel est profitable, me dit qu'attention tu t'es trompé. Et c'est là que nous voyons d'une certaine façon la solidité de ce dîn. Notre dîn, notre religion a des bases solides. C'est une leçon d'humilité avant tout. On se remet en question, on se rend compte qu'on commet des erreurs, nous sommes des êtres humains et nous devons rectifier les erreurs et faire bien attention à nos sources parce que la religion doit rester nette, pure et authentique. Et ça permet également c'est rassurant de savoir que et les deux personnes qui m'ont fait ces retours, à la base, ils habitent dans des continents différents, d'accord ? Et ça permet de comprendre que, mashallah, ce dîn est protégé. On a des gens qui ont une connaissance, mashallah, bien sûr supérieure, et qui sont capables de vérifier les sources et de vous faire un rappel. C'est-à-dire que personne ne peut, on va dire, propager une chose, une parole qui est erronée, que ce soit volontairement ou, là dans mon cas, c'est involontairement, sans qu'il n'y ait, mashallah, des personnes qui sont capables de rectifier. Et ça, c'est rassurant. Il y a toujours un parachute, il y a toujours, on va dire, un savant de secours, un alim de secours, et qui ont beaucoup plus de connaissances et qui permettent de rattraper. Et donc, mashallah, je vous le dis, hein, c'était avant ces remarques. C'était un frère qui m'a également envoyé un petit message. Et donc, bifadlillahi ta'ala wa karami, ça a été effacé. Mais il y avait que deux personnes qui l'avaient lu et ils ont fait, sur les deux, il y en a une capture d'écran. Et c'est parti à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et j'aimerais que ceux qui entendent le message rectifient, d'accord ? Ce n'est pas Abu Huraira déjà, bon, ça c'est une grosse une erreur de lecture et ce n'est pas l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors, ça a été rapporté par Ibn Rajab al-Hanbali. Et Ibn Rajab al-Hanbali, c'est l'auteur d'un ouvrage qui est utilisé par beaucoup de savants qui s'appelle La Ta'iful Ma'arif, un livre que nous utilisons également. Et la spécificité de cet ouvrage, c'est qu'il traite des vertus de chaque mois de l'année. Dans chaque mois, quelles sont les actions accomplies. Donc c'est un livre qui est très bien fait, mais étant un être humain, voilà, tout le monde se trompe. Donc l'importance de vérifier les sources. Ainsi donc, tout ça c'était pour dire que, voilà, même si des savants avaient dit que la terre est plate, elle n'est pas ronde, quand on voit ensuite qu'elle est ronde, ça ne veut pas dire que c'est le Coran qui est erroné ou les versets ne sont pas authentiques. Là, wallah, c'est l'avis d'un savant qui s'est trompé et nous ne sommes que des êtres humains. Donc, restez concentrés sur notre présent, notre devenir, notre futur, ce qui nous permettra de réussir le passage de ce dunya. Et il est inutile de papillonner, comme on a dit, d'aller trop loin dans les explications ou dans la recherche de choses qui ne nous seront pas profitables directement. Je parle des dinosaures, d'accord, et je parle des extraterrestres ou d'une vie sur Mars, enfin Mars par moyen personne, ou ailleurs, d'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Naam. Ibn Uthaymin, rahimahullah, conclut le tafsir, et nous concluons également, conclut le tafsir de ce verset en rappelant, on va dire, trois fawaïd, trois enseignements, ou deux, on va dire, essentiels. Premièrement, n'oubliez jamais, ô croyants, que toutes les louanges reviennent à Allah, Azza wa Jal, uniquement à Allah. Les remerciements pour votre existence, votre iman, votre foi, votre présence sur terre, la santé, la subsistance, et ainsi de suite. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izzah et uniquement à lui. Ce qui veut dire également que dans toutes les situations de la vie, le cœur du croyant se tourne vers Allah et le cœur du croyant se soumet à Allah et doit être dans l'acceptation. Dihada. كان النبي عليه الصلاة والسلام ainsi Ibn Uthaymin dit que lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام il vivait une situation de bonheur, il avait ce doua Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Il lisait ce doua qui manifeste sa joie et qui rappelle que c'est Allah qui permet d'avoir des situations d'aisance, de bonheur et qui permet d'être humain de connaître de bonnes choses. Mais lorsque le prophète alayhi salat wa salam vivait une situation difficile, il disait Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah, toutes les louanges reviennent à Allah dans toutes les situations. C'est-à-dire dans les deux cas de figure, c'était toujours Alhamdulillah. Et ça, je dois retenir. C'est pas quand tout va bien, dire Allah Akbar, Alhamdulillah, 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 remercie Allah. Et lorsqu'on est dans des difficultés, on oublie, on cherche des coupables, des intermédiaires, de l'aide à droite, à gauche, et on oublie que la situation de difficulté vient d'Allah Azza wa Jal également. Donc ça, c'est un des enseignements de Alhamdulillahi. On retient Rabbil Alamin, le royaume d'Allah, la puissance d'Allah et tout, ressentir la grandeur d'Allah quand nous prions, et nous retenons le terme qui a été utilisé pour qualifier notre Seigneur Rabb. C'est un terme qui est rempli d'amour, d'affection, mais également qui montre que tout a été créé par Allah et sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à la pour ce soir, Inch'Allah, en demandant à notre Seigneur Azza wa Jal de nous accepter en cette nuit du 23e Ramadan, nuit impaire pour la Réunion. D'accord ? On est un petit peu isolé du monde, du coup, dans cette histoire. Mais quand même, nuit impaire pour le reste du monde, et entre autres la métropole, et Ardu al-Haramain, les terres saintes, Makkah et Medina, les terres sacrées. Et c'est la nuit du 25e, donc on essaie au maximum ce soir de... Bien sûr, vous savez ce qu'il y a à faire, mais nous demandons à notre Seigneur de nous donner la guidée ce soir et d'intégrer la notion de Hamd, que notre cœur s'oriente toujours vers Allah dans toutes les situations de notre vie. Et c'est une spécificité des Ahlut Tawhid, des croyants. Ça m'a dit, ajaban, quelle situation incroyable que celle du croyant. Lorsqu'il lui arrive quelque chose de bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Lorsqu'il lui arrive une difficulté, il fait preuve de patience et c'est également un bien pour lui. Retenir cette notion de cœur orienté vers Allah et comprendre que tout est sous le contrôle d'Allah. Donc ne pas avoir peur d'une quelconque créature. Et toujours demander l'aide et la protection d'Allah et se retourner vers notre Seigneur et reconnaître sa grandeur et sa puissance. Et quand nous lisons Rabbil Alamin, c'est les yeux rivés vers le sol, la tête baissée et le cœur rempli d'humilité et se sentir écrasé par la puissance du Seigneur des mondes. Matawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.